donné au conflit entre des princes de France et Anne de Beaujeu, régente de France. Nous sommes au XVe siècle, vers la fin du XVe siècle. Anne de Beaujeu est régente en attendant que Charles, son frère, devienne roi de France, soit suffisamment âgé pour le devenir. À la tête de l'opposition, on trouve le beau Louis d'Orléans. Alors, de l'autre côté, vous ne le trouvez peut-être pas si beau, mais elle, et c'est la surprise du conflit, au départ, elle était follement amoureuse de lui. Mais ils vont bel et bien entrer dans un conflit et il semblerait qu'une partie du conflit vient de cela. Elle était follement amoureuse de lui alors que lui était amoureux d'Anne de Bretagne. Un conflit qui a duré 3 ans. Et on retrouve la haine et l'amour côte à côte dans notre texte, n'est-ce pas? Avec le genre de renversement, revirement inattendu, un conflit, alors qu'on était parti avec l'amour au départ. Et qui est à l'abri? Est-ce que vous êtes à l'abri d'un tel revirement? Quelqu'un comme David peut être très apprécié et apprécié d'un grand nombre de personnes, la majorité, et pourtant devenir celui qui est profondément haï, traqué, et devenir vulnérable. Je vous propose en 2 parties de parcourir ce texte, quand l'amour suscite la haine, quand l'amour sert de piège. Entre Saül et David, tout avait commencé avec une belle remarque. Chapitre 16, David arriva, se présenta devant Saül, celui-ci l'aima beaucoup et il fit de lui son porteur d'armes. Mais dans tout ce livre de Samuel, on assiste à des renversements. Et si on en relevait quelques-uns, le premier renversement, c'est que le roi que le peuple a choisi est progressivement remplacé par le roi que Dieu s'est choisi, David. Le deuxième renversement, c'est que l'esprit donné dans un premier temps à Saül lui est retiré et il est donné à David qui doit lui succéder. Le troisième renversement concerne la perspective de Saül vis-à-vis de David. On l'a vu, il l'aimait beaucoup au départ. Mais au verset 9 de notre texte, à partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance et il va vouloir le tuer. Comment comprendre ce qui se passe ici? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Et qu'est-ce qu'on peut en retirer? On commence avec quand l'amour suscite la haine. Dans ce passage, il est frappant de relever toutes les fois, il est question d'amour et d'un amour vis-à-vis de David, grandissant, mais paradoxalement, la haine aussi. Avec les traces d'amour, on les voit chez Jonathan d'abord, qui s'attache à David au verset 1. Il l'aima comme lui-même. Verset 3, il l'aimait comme lui-même. C'est ensuite tout Israël, Judas, qui aime David au verset 16. Autrement dit, ce n'est pas simplement sa tribu, Judas, mais tout Israël. Verset 20, 28, il est dit de Michal, la fille de Saül, qu'elle l'aimait. Au verset 22, il est question des gens de la cour de Saül qui aiment David. De plus en plus de personnes aiment David. Comment est-ce qu'on explique ce qui se passe? Certains diront, il y a des personnalités comme ça. Il y a des gens qui sont attachants, ils sont forts relationnellement. Ils ont un relationnel fort. Un peu comme le commentaire fait au sujet de Mika dans un article hier dans le Figaro. Le journaliste affirme qu'il avait déjà ses fans, mais maintenant, il entre dans chaque samedi soir dans le foyer de monsieur et madame tout le monde pour dévoiler sa personnalité fantaisiste et attachante, et je cite, « Plus la finale approche, plus on s'étonne d'entendre nos propres parents dire « Il a l'air sympa, Mika. » Oui, il y a bien la personnalité qui peut jouer, mais l'auteur de notre texte met le doigt sur autre chose, 2 expressions qu'on retrouve à plusieurs reprises. David réussissait dans toutes ses entreprises. Verset 5, 14, 15, 30, et aussi que le Seigneur était avec David, 12, 14, 28. Et pour le lecteur de la Bible, ces expressions, on les a déjà retrouvées pour un personnage comme Joseph, lorsqu'il est en Égypte, dans le livre de la Genèse. C'est bien parce que Dieu est avec David que les choses se passent de cette façon. Tout lui réussit, et tout le monde s'attache de plus en plus à lui. parce que Dieu est à l'œuvre. Et pour le constater, ben, reprenons la première rencontre, David et Jonathan, après la victoire contre Goliath. Dès que David eut achevé de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Alors certains diraient, mais c'est tout à fait normal. Ils ont beaucoup de points communs, tous les deux, Jonathan et David. Tous les deux sont jeunes, tous les deux sont guerriers, tous les deux ont lancé des attaques contre les ennemis du peuple en comptant sur Dieu et pour son honneur. Tous les deux ont agi dans un contexte de minorité, et alors que les oppresseurs se faisaient menaçants. Mais est-ce que cette amitié, elle est si naturelle que ça? Qui est Jonathan? C'est le fils de Saül. C'est l'héritier légitime, c'est celui qui, normalement, devrait reprendre le trône de son père. Et à la différence de Saül, il montre tous les signes d'un bon roi. Il serait un bon roi, ce Jonathan. Il va à la tête des armées. Il est reconnu comme quelqu'un de courageux. Il fait le travail de son père dans les chapitres 13 et 14. Et il est reconnu par le peuple comme un leader inspirant. Et pourtant, ici, Jonathan ne regarde pas David avec jalousie, comme une menace, comme quelqu'un qui va lui faire de l'ombre. Non, au contraire, il le respecte et il va même l'élever. Il commence par faire une alliance avec David, signe de son profond respect pour lui. Et il fait plus que cela. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. C'est hautement symbolique. Difficile de dire jusqu'à quel point il réalisait ce qu'il faisait. Et peut-être ça s'est fait, non pas devant tout le monde, mais ailleurs, pas en public en tout cas. Mais en tout cas, il fait quelque chose qui a une signification forte. C'est tout ce qui fait de lui, tous ces éléments-là, c'est tout ce qui fait de lui, les marqueurs d'un héritier au trône, ses armes, ses habits, on le voit ailleurs, c'est ce qui fait de lui un héritier. Est-ce que c'est si naturel que ça qu'il l'aime à ce point-là? Il aurait pu haïr David ou le regarder comme une menace, mais ce n'est pas le cas. Petite remarque sur l'expression « il l'aima comme lui-même ». Certains ont suggéré qu'il y avait un aspect sexuel à cet amour entre David et Jonathan. Mais d'une part, ça ne colle pas avec toutes les expressions qu'on retrouve avec ce même terme d'amour pour les autres personnes dans le texte. Et aussi, comme le dit un commentateur, voir du sexe entre les lignes de l'histoire de David et Jonathan, ça vient d'une lecture moderne. Les textes eux-mêmes ne le suggèrent pas. Du côté de David, il ne joue pas une politique de l'élévation personnelle. Il se montre loyal vis-à-vis de Saül. Il va partout où Saül l'envoie. Et c'est frappant quand on y réfléchit. Il a déjà été roi. Il sait qu'il doit devenir roi, mais il n'est pas en train de jouer les contrepoids, prendre de la distance par rapport aux décisions. Non, il obéit. Et le constat avec les guerres qu'il remporte, c'est que tout le monde l'apprécie. Même les gens de la cour de Saül, même ceux qui sont dans l'entourage de Saül, le voient positivement. Mais il y a un revirement. Et il arrive au moment de la fin de la campagne militaire. Les mères et les épouses se rassemblent pour accueillir leur fils, leur mari. Et comme c'est le cas à divers endroits dans l'Ancien Testament, les femmes composent des chants de reconnaissance. Alors qu'on approche de la Coupe du Monde, pour ceux qui se rappellent de 98, c'est « et 1, et 2, et 3, 0 ». Donc un peu plus développé que ça, et c'est pas difficile. Il y a les femmes qui ont composé « Saül a abattu ses milliers ». Et David, ces dizaines de milliers, elle chante, elle danse pour l'exprimer. Et quelle est la réaction de Saül en entendant ça? Eh bien, c'est la colère, la frustration. On donne les dizaines de milliers à David et à moi, on me donne les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Et avec ces dernières paroles, ça semble utile de faire un petit flashback. Pourquoi est-ce qu'Israël a demandé un roi? Israël a demandé un roi qui puisse marcher à la tête de son armée. Qu'est-ce qui caractérisait Saül lorsqu'il a été choisi? Sa belle apparence et aussi le fait qu'il dépassait tout le monde par sa taille. Mais quand Israël passe 40 jours d'épreuves où on leur lance des défis, il n'est pas à la tête de l'armée. Il n'est pas en train d'encourager ses hommes. Du côté des Philistins, on avait envoyé le plus grand, le géant, le molosse. Du côté des Israélites, le plus grand, le géant, il n'est pas prêt à se lancer dans le défi. Sa grande armure, il est prêt à la faire porter au petit David, mais il ne va pas la mettre lui-même. Et en disant de David qu'il ne lui manque plus que la royauté, Saül se souvient peut-être de ces paroles qu'il a entendues de Samuel. Quelqu'un de meilleur que lui va prendre sa place. Et dans le chapitre précédent, comme dans celui-ci, David est meilleur. Et parce que Dieu est avec lui, ça fait toute la différence. Dans les paroles de Saül, on entend son amertume, sa jalousie, et elle va aller grandissant. À partir de ce jour-là, Saül regarda David avec malveillance. Et il y a, semble-t-il, un jeu de mots entre malveillance, ce regard d'un œil jaloux et la transgression. Il est prêt à transgresser, il est prêt à tuer dans sa jalousie. La désaffection a pris racine. Et le mal qui s'empare de lui, c'est ce qui est présent au verset 10 avec, c'est vrai, une situation qui paraît un peu surprenante. Il fait le prophète. Peut-être qu'il faudrait plutôt traduire, il est comme en transe. Il n'est plus le maître de lui-même. C'est intéressant parce qu'au début, quand il a été choisi comme roi, il a fait le prophète, mais c'est par l'esprit qu'il a été saisi. Ici, ce n'est pas par l'esprit qu'il est saisi. Cet esprit le pousse au meurtre, à la folie meurtrière. Il est maîtrisé par un autre esprit qui le pousse plus loin dans la transgression, dans le désir de se débarrasser. Un mélange de responsabilité et en même temps de démence. L'esprit qui l'anime n'est pas l'esprit de David. Et il est saisi de ce désir de tuer David, mais il s'y reprend à deux reprises avec le constat d'un échec. David s'enfuit. Et là, on s'imagine que la peur, elle est du côté de David. Mais pas du tout. Saül réalise que le Seigneur était avec David. Et c'est lui qui a peur. C'est lui qui a peur. Saül l'éloigne de lui en l'envoyant à la tête de ses troupes. Et le constat, David réussissait dans toutes ses entreprises et le Seigneur était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül était effrayé par lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce que c'était lui qui partait en campagne et en revenait devant eux. Dans un premier temps, on pourrait être tenté d'appliquer ce texte à nos vies en réfléchissant à ses sentiments. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de nous ? Est-ce qu'il y a cette haine ou cet amour vis-à-vis de nous? Mais il semble important de souligner le rôle qu'a eu David en tant que roi, messie, dans l'histoire du salut. Et dans sa lignée, il y a eu un autre messie plus grand que lui. Comment est-ce que les gens ont réagi vis-à-vis du fils de David, du messie? Dans le temps de Jésus, on trouve des perspectives variées entre affection et désaffection. Mais prenez l'attitude d'un Jean-Baptiste, par exemple. On nous fait part dans l'évangile de Jean de ce moment où les disciples de Jean-Baptiste vont vers lui pour lui dire « Voilà Jésus qui baptise !» Et tous vont vers lui. Comment est-ce que Jean-Baptiste réagit? Est-ce qu'il s'attache à sa popularité? Est-ce qu'il voit Jésus comme quelqu'un qui va lui faire de l'ombre, l'amertume dans le cœur? Il dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse. » Et que je diminue. La grande majorité des responsables religieux, eux, vont être remplis de jalousie vis-à-vis de Jésus, au point de le faire mourir. Mais lui, il dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et c'est l'occasion de nous demander comment est-ce que nous, on agit vis-à-vis de Jésus, on réagit vis-à-vis de lui. Quelle attitude est-ce que j'ai vis-à-vis de lui? Est-ce que je me présente régulièrement dans n'importe quelle conversation comme la personne qui a les choses en place et qui voit juste, qui a raison dans sa manière de réfléchir, qui est humble, qui a des qualités nombreuses? Ou alors, qu'est-ce que je vais avoir dans le cœur, ce désir qu'il grandisse et que je diminue? Ou alors, dans une situation où je vois autour de moi une personne qui a cette présence de Dieu dans sa vie, cette grâce de Dieu qui lui est manifestée, Jésus à l'œuvre dans sa vie, des signes qui montrent qu'il est ou elle est bénie de Dieu. Est-ce qu'il y aura cette amertume, cette jalousie, ce désir, moi aussi, d'avoir ce qu'elle a reçu? J'aimerais qu'on me reconnaisse moi aussi. Moi aussi, j'ai quelque chose dans le ventre. Moi, j'aimerais aussi qu'on me reconnaisse. Et si c'était l'occasion plutôt de dire, comme un Jean-Baptiste, comme un Jonathan, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Deuxièmement, quand l'amour sert de piège. Mata Hari est une danseuse courtisane. Je n'ai pas mis les photos quand elle danse, mais elle a été fusillée en octobre 1917 pour espionnage. Et au départ, c'est un membre du contre-espionnage français qui a eu l'idée de la recruter. D'une part parce qu'elle était douée dans les langues, parce qu'elle connaissait beaucoup de monde à différents endroits, des deux côtés du conflit. Et puis, elle pouvait se déplacer avec son métier, séduire des hommes de haut rang. Et on lui demande d'aller espionner le haut commandement allemand en Belgique. L'amour devait servir de piège pour amadouer les personnes qu'elle voulait espionner. Mais progressivement, c'est elle qui va se trouver piégée, victime de manœuvres des deux côtés du conflit. Et ici, on voit Saül qui essaie de jouer avec l'amour, alors qu'il a échoué avec la lance. Il choisit d'utiliser l'amour, la promesse d'un mariage pour David avec sa fille. Pour lui, c'est l'arme fatale. Et à la place de la dot, il demande de la bravoure. Il se dit que c'est de cette façon qu'il va se débarrasser de lui en l'envoyant au front. Ce sont les Philistins qui vont faire le travail. Mais quand David entend la proposition, sa réaction montre une fois encore sa loyauté, son humilité. Qui suis-je et quel est mon lignage, le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Il voit cela comme un privilège. Et quand vient le moment pour Saül de tenir sa promesse, son engagement, eh bien, il donne sa fille à un autre homme. Un affront, comme si David, en fait, n'était pas vraiment digne de ça. T'es pas à la hauteur. Pas de trace d'amertume chez David. Mais Saül voit les conditions d'un meilleur complot. Il entend que son autre fille, Michal, est amoureuse de David. Et pour s'assurer que David va vraiment être au cœur du danger, il lui lance le défi morbide, infect, un trophée de 100 prépuces. Ça semble lié à la distinction entre circoncis, incirconcis. Les Israélites étant circoncis, les Philistins incirconcis. À d'autres moments dans l'histoire, on voit des mains ou des têtes qui servent de ce genre de trophée, mais il faut reconnaître qu'ici, c'est particulièrement morbide. Et David ramène le double de la mise, démontrant une fois encore que Dieu est avec lui. L'amour qui devait servir de piège n'a pas réussi. Il s'en est sorti une fois de plus. Et là encore, l'appréciation pour David grandit. Et on réalise qu'au fur et à mesure où il entre dans le danger, où il va plus loin dans le danger, la protection de Dieu devient de plus en plus évidente aussi. Dieu est avec lui et le protège, le garde. Imaginez un roi qui, avec sa puissance et son autorité, est déterminé à se débarrasser d'un sujet, toujours plus loin dans les tentatives, les démarches, les complots, les pièges, la haine, et pourtant la protection de Dieu de plus en plus évidente aussi, et de manière surprenante. On n'a pas le temps de le lire, mais quand on parcourt la suite du livre, on découvre que c'est les personnes les plus surprenantes qui vont finalement être les moyens pour David d'être sauvé. d'abord sa fille Michal, la fille de Saül, Jonathan, des membres de sa famille à Saül. Il essaie de se débarrasser de celui qui va prendre sa place, et c'est des membres de sa famille qui vont lui permettre d'être sauvé. Oui, David a encore beaucoup à vivre, et on a lu ce psaume tout à l'heure, il y a des mois et très probablement des années de traque incessante pour se débarrasser de lui. Mais là où nous en sommes, on peut constater que le danger est de plus en plus pressant, mais la protection de Dieu est aussi de plus en plus réelle pour lui. Et si vous êtes croyant ce soir, c'est l'occasion de vous arrêter et de constater cette protection de Dieu. Et pas forcément besoin de regarder loin dans le passé, dans le présent, le fait de tenir. David a encore beaucoup de choses à vivre, mais là où il en est, il peut constater cette providence et cette protection de Dieu, de quoi être reconnaissant. Mais on a quand même envie de poser la question. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que Dieu protège toujours? Pensez à celui qui montre de nombreuses similitudes avec David, descendant de la même lignée, au bénéfice de l'Esprit de Dieu pour accomplir sa tâche. Tout est l'évidence de Dieu qui est avec lui. Il est Dieu lui-même, venu parmi les hommes. Ses signes le montrent et des réactions diverses comme pour David. Mais au fur et à mesure que le danger avance, on se dit, il pourrait y avoir un revirement, il pourrait y avoir un élément qui va le protéger. Il est victime d'un complot et c'est par un baiser que Judas le trahit. Au moment de bénéficier du réconfort, du soutien de ses amis, des disciples, il dort. Au moment de bénéficier d'une solidarité lors de son arrestation, il fuit. Et lorsqu'il est possible d'avoir quelqu'un à ses côtés, d'avoir quelqu'un qui est prêt à s'associer à nous, Pierre le renie 3 fois. Tout au long du procès, on pourrait imaginer une issue favorable. Dans le Sanhédrin, il doit bien y avoir un Gamaliel qui peut contrebalancer la décision. Mais ce tournant n'a pas lieu. Avec Pilate indécis, sa femme qui a un rêve et qui lui dit qu'il faut qu'il fasse attention, et lui qui se dit « il est innocent », on se dit qu'il pourrait y avoir une issue. Mais il cède devant la pression de la foule. Une foule qui ne renverse pas la décision du Sanhédrin malgré le fait qu'ils ont vu tous ces signes s'accomplir. Hérode, quand l'occasion lui est donnée de se prononcer, on pourrait imaginer que sa fascination pour Jésus va lui permettre de protéger Jésus. Mais Jésus avance toujours plus loin dans le danger. Et il va bel et bien mourir. Crucifié, les ténèbres règnent, il est exposé, dévêtu, plus aucune protection, cloué à une croix. Et lui-même s'écrie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que ça signifie, par exemple, que parfois Dieu nous protège, parfois pas? Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Aujourd'hui même, il y a probablement des chrétiens qui font face à des bourreaux. Peut-être même un chrétien qui est décédé aujourd'hui et qui ne sera pas épargné. Il faut qu'on réalise que dans ce que Jésus nous présente de lui-même, il y a un autre trait de similitude qui est présent pour tout chrétien, quelle que soit sa situation. Lorsque Jésus se présente en Jean 10, il se présente dans les traits d'un berger, comme David. Et il assure les croyants d'une présence permanente avec eux. Il donne sa vie pour ses brebis quand vient le danger. Et c'est le sens qu'il donne à sa mort. Il dit avoir donné sa vie de plein gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et l'affirmation forte avec laquelle il clôture cette image, c'est la suivante. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Jésus promet, quelle que soit notre situation, sa présence avec nous. Si lui a été seul dans le danger, il nous assure, nous, de sa présence, quelle que soit la situation. Et ce moment où il a vécu sans protection, il l'a vécu de sorte que nous soyons assurés que dans le long terme, la vie éternelle, nous soyons assurés de cette protection, de cette vie soutenue. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour toutes les fois où nous avons pu expérimenter ta protection, ta grâce, malgré le danger, malgré les renversements, les revirements. Nous te prions que tu nous accordes dans notre situation, dans nos situations, cette foi en toi, que tu es maître de nos circonstances, que tu es souverain. Et accorde-nous en particulier, en Jésus, à la fois cet émerveillement à cause de ce qu'il a vécu à notre place et cette foi en lui, qu'il est notre bon berger, un berger qui sera toujours présent et qui nous garantit dans le long terme sa protection et sa providence. En son nom, amen.